Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 59. Oui, c'est ça, 59. C'est l'édition spéciale sur la chaîne principale. On est vendredi. Nous sommes le 13, le 13 décembre 2019. Et on va commencer tout de suite. Bonjour à tous et très content de vous retrouver en ce vendredi. J'espère que vous allez bien. La semaine a été dure pour tout le monde. Un bon mot de courage pour tous ceux qui doivent se rendre à pied, en vélo, en deltaplane, en parachute à leur boulot. Également notre soutien à ceux qui font grève hein, dans le froid et tout ça. C'est pas facile en ce moment, mais haut les cœurs, on est ensemble. On se retrouve effectivement pour faire ce mug spécial. Alors je réexplique le concept du mug à ceux qui ne connaissent pas vraiment parce que ils nous voient débarquer une fois par semaine sur la chaîne principale. What the fuck? Eh bien le mug Nowtech, c'est une émission, une revue de presse de la technologie qu'on fait tous les matins de la semaine. Donc du lundi au jeudi, ça se passe sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Pensez à vous abonner, il y a un lien quelque part. Et puis le vendredi, ben, on se retrouve tous sur la chaîne principale hein, pour qu'il y ait plus de monde qui découvre un petit peu le mug. Donc on va commencer par les news. Comme d'habitude, le vendredi, je vais faire un récap rapide des news de la semaine, ce qu'il ne fallait pas oublier cette semaine. Et ensuite, les news fraîches. Le kawa fraîchement moulu, ça sera les news du vendredi, il y en a pas mal aujourd'hui. Donc on va attaquer tout de suite les news et c'est donc le kawa. Et le kawa ce matin, donc on commence par le récap de la semaine. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine? Eh bien... Il y avait quelques petites news quand même qui étaient intéressantes cette semaine. Il y avait le bug Apple qui effectivement, il y avait un début de bad buzz avec les iPhones, selon quoi un chercheur s'était aperçu qu'il y avait des données il y avait des données de géolocalisation sur les iPhones. On se demandait un petit peu pourquoi et si elles étaient partagées. Apple, après avoir donné une réponse en demi-teinte sur ce fonctionnement, a expliqué que c'était un bug qui était dû à la puce U1. La puce U1, c'est celle qui permet dans les nouveaux iPhones d'utiliser la technologie Ultra Wideband qui, en fait, va vous donner un certain nombre de fonctionnalités et notamment la nouvelle manière de gérer AirDrop. Si certains ont le nouvel iPhone, ils savent de quoi je parle. AirDrop, maintenant, il suffit de pointer son iPhone vers un autre objet compatible AirDrop pour que celui-ci remonte dans la liste des priorités AirDrop. Et ça facilite, en fait, comme ça, le transfert des AirDrop. Le truc, c'est que la puce U1 déterminera, avec la localisation, si l'ultra wideband qui ne peut pas être activé partout pour des raisons de sécurité, peut être activé à l'endroit où vous êtes. Donc Apple certifie que cette fonctionnalité est gérée directement par le smartphone sans qu'Apple ne collecte les données associées à cette géolocalisation qui se passe en tâche de fond. Donc la prochaine mise à jour, et moi j'ai déjà la bêta, devrait effectivement apporter une nouvelle option pour cette fonctionnalité dans les prochains jours si vous ne voulez pas effectivement utiliser la technologie ultra wideband. Voilà, donc ça c'était un petit peu la réponse au début de Bad Buzz. Dans les news aussi cette semaine, moi, oula, excusez-moi, un chat dans la gorge, sort de là le chat. Une news également cette semaine, Guillaume l'a traité hier, je l'ai traité en début de semaine, c'est la Chine qui va appliquer un plan en 3 ans pour supprimer tout hardware et tout logiciel étranger et notamment américain. On est toujours dans les manœuvres du bras de fer entre la Chine et les États-Unis. On va voir d'ailleurs aujourd'hui que les choses bougent, mais ça sera dans les news du vendredi. Mais en tout cas, le gouvernement chinois, puis ça va être assez efficace, c'est un système 3-5-2, c'est-à-dire que l'idée c'est de rendre remplacer 30% de leur dépendance technologique étrangère la première année, 50% la deuxième année et les 20% résiduels la troisième année. Donc ça concerne tant le hardware que le software. C'est pas une mince affaire, hein, parce que se passer aujourd'hui de Windows, on sait qu'effectivement les Chinois ont le potentiel pour développer un OS et rester complètement indépendant et se séparer finalement du reste du monde, ce qui est quelque part, mais ça va pas être l'objet d'un débat aujourd'hui, mais assez triste de voir cet Internet en train de se découper et où des frontières sont en train de se refaire. C'est quand même, après, en termes de dépendance technologique, effectivement, les manœuvres commerciales de cette année au bras de fer, au forceps et au pied de biche entre les États-Unis et la Chine, on donnait une nouvelle saveur, on va dire, aux relations internationales et on va dire au niveau des relations commerciales, qui fait que je pense qu'aujourd'hui, tout pays commence à se dire notre dépendance technologique, va falloir peut-être se pencher dessus. Là-dessus, l'Europe a énormément de retard en termes de dépendance technologique. Nous, on aurait beaucoup de mal, effectivement, à devenir indépendant technologiquement. On continue dans les news de la semaine qu'il ne fallait pas rater et on va parler de BERT. Google BERT, c'est la nouvelle version du moteur de recherche. Alors, ça me fait ça depuis quelques temps. Il démarre l'émission après sur mon smartphone. Je ne veux pas. Reste couché. Donc, Google BERT, c'est bon, tu ne te déclenches pas. OK. Il faut que je me méfie avec tous mes assistants personnels, tous mes trucs là qui se déclenchent. Ça devient terrain miné, hein, l'atelier pour présenter. Donc Google BERT, c'est la nouvelle version du moteur de recherche. BERT, ça veut dire quoi? C'est Bidirectional Encoder Representation for Transformers. Donc ça ne concerne pas les transformeurs, mais en gros, l'idée, c'est un changement majeur dans la manière dont Google comprend vos requêtes de recherche. Jusqu'ici, les requêtes étaient basées sur des mots-clés. Maintenant, le sens des mots-clés, l'ordre des mots-clés, va donner des sens de recherche. Et c'est très important, notamment pour les recherches à base vocale, où on formule sa recherche dans une phrase avec un verbe, un adjectif et tout le tralala. Et pour donner des recherches beaucoup plus précises, beaucoup plus contextuelles, l'exemple qu'il donne, c'est par exemple, autrefois, avec l'ancien moteur de recherche, si vous tapiez quelque chose du genre « Puis-je aller chercher des médicaments à la pharmacie pour quelqu'un ?» Google allait comprendre « Aller chercher pharmacie, médicaments », les mots-clés, mais le « pour autrui » ou « pour quelqu'un » ne le prenait pas en compte de manière contextuelle. Donc il allait vous répondre « voilà les pharmacies à côté de chez vous, mais ne répondez pas du tout à votre question, c'est est-ce que je peux aller prendre des médicaments pour quelqu'un avec une ordonnance ? Maintenant, avec le système BERT, il va pouvoir répondre à ce genre de questions. Merci Texotoc pour ton super chat. Soutien de la chaîne YouTube, je vais bien la prononcer, Texotoc. Eh bien, merci à vous, chers collègues. Donc c'est un gros changement, ça va pas concerner toutes les recherches sur Google, mais c'est effectivement une avancée pour Google, une nouvelle façon de faire des recherches pour intégrer justement ces recherches de maintenant et du futur qui vont être des recherches de plus en plus formulées. Est-ce que du coup il faut changer notre manière de taper des recherches? Oui et non. C'est-à-dire que les anciennes recherches où on se basait vraiment sur les mots-clés continueront à fonctionner. C'est juste que maintenant, vous allez pouvoir formuler des recherches, des requêtes beaucoup plus sophistiquées, en fait. On continue dans les petites news qu'il ne fallait pas rater cette semaine. The Pirate Bay lance sa propre solution de streaming. Et oui, dans la guerre du streaming, n'oublions pas les pirates de Pirate Bay. Ils ont fêté leurs 16 ans le 25 août dernier. C'est l'insubmersible du téléchargement. Le nombre de fois que j'ai entendu The Pirate Bay est mort, on ne peut plus compter. Eh bien, pour être dans l'air du temps, ils vont faire, pour ceux qui ont connu la grande époque, merci beaucoup Tony pour ton super chat, ton super sticker d'ailleurs, ils vont lancer effectivement Baystream, qui ressemble vachement à ce que certains ont connu à une époque qui était Popcorn Time. Je ne sais pas si ça marche encore, Popcorn Time. Certains peuvent peut-être me le dire dans la chatroom si Popcorn Time marche toujours. Ça date, hein, Popcorn Time. Hein, c'était au moins il y a 5 ans, 4-5 ans. Oui, ça marche encore. Bon, le système, c'est qu'en fait, au lieu de télécharger des films et des séries piratées, vous pourrez les regarder en streaming. Donc, ça va être la nouvelle proposition, effectivement, du Pirate Bay. Ça va s'appeler Baystream. À voir après la qualité, comment ça marche, etc. Bien sûr, il faut quand même avoir une connexion qui tient un peu la route hein, pour faire ce genre de contenu streamable. Encore une fois, la chaîne ne cautionne pas et n'encourage pas au piratage de contenu. Après, on va être franc, il y a certains contenus qui ne sont pas accessibles. J'ai envie de dire, c'est la faute à ceux qui ne nous les rendent pas accessibles. Après, le fait de payer, pas payer, on ne va pas rentrer dans ce débat, ça prendrait l'ensemble du mug. On a eu énormément de discussions, on en aura énormément d'autres de discussions sur le piratage, les pratiques, etc. Aujourd'hui, on va dire que notre ligne officielle, c'est que tant qu'il y a des produits qui sont supérieurs au piratage en termes de qualité, et moi, c'est mon cas, et j'ai la possibilité effectivement financière de pouvoir me payer ces abonnements-là, je suis très heureux avec des Netflix, avec des Amazon Prime, quitte à switcher d'abonnement de mois en mois selon ce que je veux regarder. Voilà, c'est comme la musique, moi je pirate plus rien depuis qu'il y a des offres de streaming payantes qui me vont tout à fait. Tant que l'offre est meilleure que ce qu'on peut obtenir en piratage, pour moi, et qu'on a les moyens de se les payer, ça ne vaut pas de pirater. C'est un petit peu ma ligne de, c'est un peu ma ligne de conduite. Après, je vais pas vous cacher que j'ai vu les épisodes de Mandalorian. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est pas dispo en France, c'est pas ma faute. Hein. c'est pas moi, monsieur. Hein. C'est pas moi. Bref. effectivement, ils avaient qu'à faire une sortie mondiale Disney+. C'est de votre faute, hein. Non, mais ça va pas, non? Bon, bref, parlons également d'un sujet qui n'est absolument pas polémique en ce moment. On n'entend absolument pas n'importe quoi dessus. C'est bien sûr la sortie du Mac Pro en cette fin de semaine. Le Mac Pro a été lancé par Apple. Il vaut plus de 70 000 euros. 70 000 euros si vous prenez le truc maxé avec 1,5 Tera de RAM. Oui, vous avez bien entendu. Le morceau de croissant qui vient de tomber de votre bouche, vous le ramassez, hein. Faut pas gâcher. Mais 1,5 Tera de RAM. Je ne parle pas de disque dur, hein. 1,5 Tera de RAM. Ça vaut très très, rien que la RAM vaut 30 000 euros si vous prenez 1,5. Alors là, il y en a déjà dans la chatroom. Je la regarde même pas la chatroom, mais je peux anticiper ce que vous écrivez. Mais qui peut se servir d'autant de RAM? Mais pourquoi? Mais c'est trop cher. Mais c'est fou. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Combien de fois il va falloir qu'on vous le dise? Là, pour le coup, c'est vraiment un Mac Pro. C'est des stations de travail. C'est un écran de contrôle qui sert quand vous étalonnez des films, des trucs à la télé. C'est pas fait pour jouer à Fortnite avec votre connexion ADSL, hein? Non, mais combien de fois il va falloir vous le répéter? Ce n'est pas un produit pour vous. Et dans le monde des stations de travail, le positionnement d'Apple, vous seriez surpris, mais il n'est pas mauvais. Et qu'on ne me ressorte pas, si on met les mêmes composants PC, on aura un truc deux fois moins cher. C'est faux. Allez voir justement les articles là-dessus. Beaucoup ont fait des simulations. Si on met les mêmes composants que ce Mac Pro, on arrive à des tarifs très très similaires. Et pour l'écran, on sait que chez Sony, il y a des écrans alors qui font pas exactement la même chose. Alors, on pourrait y avoir des débats. Mais il faut savoir qu'il y a des écrans qui valent 40 000 dollars, 100 000 dollars, des écrans de contrôle pro. Donc c'est un monde que vous ne connaissez pas. Mais autant on peut dire les iPhones sont trop chers, le Mac Pro, ça se discute et de toute façon, c'est pas pour vous. Voilà. C'est pour monter des films en 8K, c'est pour faire des gros calculs 3D, c'est pour faire de la recherche scientifique, c'est pas pour vous, c'est même pas pour moi. De toute façon, je pourrais pas. Voilà. C'est, en plus, c'est pas un produit de luxe. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est pas un gros Mac pour les plus fortunés. C'est pas ça. C'est une station de travail pour le monde professionnel. Pourquoi ne pas faire de prospection uniquement auprès des sociétés pro directement? Mais Apple n'a pas sorti une campagne d'affichage en disant le Mac Pro, c'est pour tout le monde, donnez-nous au minimum 6000 euros. De toute façon, il y a une campagne. Il y a même, je pense, au sein de chez Apple, un service dédié à la vente professionnelle de ces stations aux professionnels. Les exports seraient plus rapides. Ah, c'est sûr que nous... Mais bon, je vais juste terminer par ça. Le tweet que j'ai fait hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Si la chaîne avait 70 000 euros et qu'on cherchait à... qu'on pouvait investir, ce qu'on n'a pas, hein, mais si on avait 70 000 euros, pour augmenter notre productivité, je préférerais personnellement... créer un poste de cadreur-monteur pour 3 ans. Si on divise par 36 mois, on arrive à peu près... Bon, ce n'est pas un super salaire si on enlève les charges et tout, mais globalement, on arriverait à créer un poste pendant 3 ans et ça nous ferait beaucoup plus gagner en productivité que ce type d'ordinateur. Pourquoi ? Parce que nous traitons un certain type de fichiers qui ne sont pas de la 8K, qui ne sont pas des trucs, qui fait qu'on aurait besoin, on va dire, d'un Mac... qui serait dans les 2 000-4 000 euros, plus quelqu'un derrière, ça nous ferait beaucoup plus augmenter en productivité qu'un ordinateur à 70 000 euros. Et de toute façon, en termes de productivité vidéo, la ressource humaine vaut toujours plus à mes yeux que n'importe quel matos. Je préférerais avoir des caméras de merde et des ordinateurs de merde, mais des gens compétents, que d'avoir un super matos, mais personne pour travailler dessus. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi. vaut mieux travailler en Égypte. Oula, ça parle dans des trucs très très techniques, hein, la chatroom. Hein. Et dernier truc, parce que tout le monde me dit, mais les youtubeurs qui font des vidéos dessus, bah, d'abord, il y a des youtubeurs qui font de l'info, ensuite, il y a deux cas de figure, il y a trois cas de figure. Soit effectivement, ils se le sont fait acheter, soit par un sponsor. J'ai pas l'impression qu'Apple ait donné des Mac Pro à qui que ce soit. À Justine, je crois qu'elle l'a eu parce que c'est son sponsor. En gros, au lieu de lui faire un chèque pour faire une vidéo sponsor, il lui a acheté un Mac. Ensuite, les prêts Apple, certains... je crois de iCollection se les fait prêter et tout. Les prêts Apple, c'est extrêmement rare. Moi, je sais que j'y ai pas accès. Et puis d'autres se le sont achetés. Marcus Brownlee, si on écoute très attentivement sa vidéo, il s'en est fait prêter un par Apple, mais il va le rendre et il va en acheter un après pour son workflow de travail. Donc arrêtez avec ces fantasmes que vous avez autour des YouTubers. C'est pas très grave, quoi. Ah oui, les EGPU, les cartes vidéo externes. Ouais, mais bon, enfin bon, on va pas rentrer sur les specs internes du Mac Pro. Il n'y a pas que les cartes graphiques qui sont intéressantes dedans. Hein. Bien ou mal, quand on parle d'Apple, c'est bon pour Apple. Oui, de toute façon. Voilà, c'était les petites news de la semaine à retenir. On va passer aux news fraîches du vendredi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux de la technologie au sens large ? Eh bien déjà, c'est Microsoft Gaming qui vient de dévoiler la Xbox Series X au Game Awards. Alors, à quoi elle ressemble ? Est-ce que c'est un champignon ? Est-ce que c'est une crêpe ? Eh bien non, c'est une tour. Voici à quoi va ressembler la nouvelle Xbox. Ah, merde, il faut peut-être que je relis mon iPad. Ça marchera beaucoup mieux. Excusez-moi, petit fail technique. J'ai oublié de relier mon iPad pour pouvoir vous diffuser les images. Est-ce que ça marche ? Non, pas encore. Non, pas encore. Non. 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 Voilà. Oui. Voilà à quoi elle va ressembler. Donc, ça va être... une tour, vous pourrez la mettre à la verticale, à l'horizontale. Moi, personnellement, je suis fan du design parce que c'est un design extrêmement minimaliste. Dans un salon, c'est complètement... ça ressemble à rien. C'est ce que j'attends d'un design réussi, en fait. En tout cas, moi, mon salon, plus les objets technologiques disparaissent, plus je suis content. Donc voilà la nouvelle Xbox Series 10, bien sûr, bien plus rapide, bien plus puissante. Je décris un petit peu hein, pour ceux qui nous écoutent en audio. Donc ça va être un peu une tour rectangulaire avec une grille de refroidissement en haut ou sur le côté, selon si vous posez debout ou si vous la mettez couchée. Il y a aussi, on le voit, une nouvelle manette qui va aller avec cette Xbox. Donc voilà, un design sobre, rien à dire. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette Xbox, elle va être 4 fois plus puissante sur le traitement que la Xbox de la One X. Beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus efficace. Elle permettra l'affichage de 4K et de 60 images par seconde, mais pourra même aller jusqu'à 120 images par seconde. Elle permettra la prise en charge du taux de rafraîchissement variable, le fameux VRR, et la capacité 8K. La Xbox Series X embarquera les toutes dernières architectures Zen NA2 et la prochaine génération RDNA d'AMD qui sont partenaires avec Microsoft. Une latence minimum grâce à des nouvelles technologies comme le Auto Low Latency, donc le fameux ALLM, et des nouvelles fonctionnalités comme le Dynamic Latency Input, le DLI, qui permettra aux développeurs de créer des expériences incroyables. Voilà un petit peu, effectivement, pour cette série X. Est-ce que vous êtes hypé dans la chatroom? Merci pour ton super chat, Sébastien. Est-ce que vous êtes un peu hypé dans la... Ils l'ont annoncé trop tôt. Ah, Urb, il faut qu'on râle un petit peu. 8K, quelle arnaque. Alors, on va me dire, ouais, mais personne n'a un écran 8K. Oui, enfin, une console, c'est fait pour durer minimum 5-10 ans. Donc, il prévoit l'avenir aussi. Je la trouve horrible. Moi, je la trouve neutre. Enfin, de toute façon, et d'ailleurs, je fais complètement une aparté, c'est un placement absolument pas rémunéré, mais je viens de recevoir une des deux nouvelles Nvidia Shield, qui est en effet un cylindre, qu'on va juste où on va, et qui disparaît complètement. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce type de design. Et je trouve que là, la Xbox, qu'elle ne ressemble pas à une console de jeu, ça me plaît plutôt, quoi. On dirait une tour de contrôle aéroportuaire. Ouais, après, je comprends que certains soient déçus. Ils veulent des designs qui ressemblent à des consoles de jeu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne des joueurs, elle a plus de 30 ans. Et ils ont des salons, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un look ultra gamer chez eux. Non, je pense que c'est plutôt un design dans l'air du temps pour les gamers. Le côté des consoles qui ressemblent et qui sont dans des designs d'univers de gamer, je trouve que ça fait un peu années 2000. En fait, plus j'avance, mais c'est moi aussi, hein, je vieillis, hein, on rajeunit pas, ma bonne dame. Plus le design avec des LED, le clavier multicolore, enfin, les designs traditionnels gamer, je trouve que ça fait old school, ça fait années 2000. Moi, ce que je veux maintenant, c'est des trucs... moi, j'ai toujours dit à Shadow, par exemple, là, j'ai la toute première Shadow Box qu'ils avaient faite. Pour moi, c'est leur design le plus réussi. C'était juste un carré vert comme ça. Un carré vert, un carré noir. Et moi, c'est ce que j'aime. Et à la limite, si je peux coller ma Xbox derrière ma télé qu'on la voit plus du tout, ça me va, quoi. Là, les clients veulent juste la dernière console dans leur univers. Elle serait rose à paillettes en forme d'étron, ils la prendraient parce que c'est la nouvelle. C'est clair, mais quand même. Quand même, quand même. Vu le segment de Shadow, un rapprochement avec Microsoft ne serait pas intéressant. Écoute, en même temps, Shadow, moi, je leur souhaite d'aller le plus loin possible en restant indépendant, ne serait-ce que comme ça, ils se vendront beaucoup plus cher. Mais Microsoft a sa propre solution de jeu streamé qui arrive. Hein, donc, c'est pas d'actualité, en tout cas, Shadow et Microsoft. Voilà, donc ça, c'était pour la Xbox série X. On dit X ou 10 ? Parce que moi, je m'y perds. Hein. Entre les iPhone 10, X, machin, on dit X. C'est la Xbox, c'est pas la 10box. Donc, voilà. Tim Cook, si tu m'entends, on va parler de toi. Selon Tim Cook, à votre avis, quelle est la plus grande contribution d'Apple à l'humanité? La chatroom, à votre avis? Alors, tout le monde a lu l'article, donc je vais avoir l'air d'un con de poser les questions, mais c'est pas grave. À votre avis, selon Tim Cook, quelle est la plus grande contribution d'Apple à l'humanité? Voilà, donc vous avez tous lu l'article. Donc ça sert à rien que je pose la question. L'effet de surprise fait pchit. La sainte marge Apple de minimum 30%. Eh bien non, selon Tim Cook, effectivement, la plus grande contribution d'Apple à l'humanité, ce n'est pas l'iPhone, c'est effectivement les progrès qu'Apple font dans la santé. Donc, il parle spécifiquement en produits concrets de l'Apple Watch et notamment l'électrocardiogramme de l'Apple Watch. Et c'est vrai aujourd'hui que si vous avez fait attention ces derniers mois, pour Apple, c'est que du bon à ce niveau-là. Il commence à y avoir des faits divers, des histoires de gens qui ont été sauvés par leur Apple Watch. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que ça marche. Et c'est surtout le plus important. Apple a pris beaucoup de risques en sortant cet électrocardiogramme et des trucs qui contrôlent la santé. Le plus grand risque, c'est de générer des faux positifs. Le bad buzz aurait été terrifiant pour Apple si les urgences du monde entier s'étaient remplies de gens dont l'Apple Watch avait donné une alerte de santé au mauvais moment ou avait paniqué, etc. Apple a réussi à, je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont fait, avec que ce soit la détection de chute, l'électrocardiogramme, à avoir un taux de fiabilité sur l'alerte qui fait que les gens qui en ont une sont allés consulter un médecin à ce moment-là ou sont allés aux urgences et ça s'est révélé des vrais signaux. Et quand on regarde la concurrence, notamment des smartwatches, pour l'instant, personne n'ose aller sur ce terrain-là à part Apple. Parce que ça demande énormément de travail en recherche et développement pour arriver à ce côté fine-tune. Merci beaucoup pour ton deuxième super chat, Texotoc. Une console designée par Cyberpunk 2077. Donc voilà, pour l'Apple Watch, et je pense qu'il a raison, Tim Cook, on verra comment va se passer l'avenir, mais cette première arrivée d'Apple dans le monde de la santé, je le dis sans fanboyisme, est une vraie, vraie réussite. J'avais très, très peur, avec les hypochondriaques et des faux positifs, que ça tourne au vinaigre, cette histoire de santé, quoi. Et c'est une sacrée responsabilité, hein, pour Apple, quand même. Et aujourd'hui, c'est effectivement la meilleure publicité au monde pour l'Apple Watch. C'est ces témoignages de gens qui disent « ça m'a sauvé la vie ». Et il s'avère que c'est vrai. Donc, voilà pour Tim Cook et la plus grande contribution d'Apple à l'humanité. Troisième article de ce vendredi, finalement pas de taxe Trump qui aurait fait grimper le prix de l'iPhone de plus de $150. C'est ce que craignait Apple et ça devait arriver dans deux jours. Les décisions de Trump de taxer tout un tas de produits chinois, eh bien ça ne va pas se faire. La nouvelle vient de tomber sur nos téléscripteurs. Et oui, nous, on fonctionne à l'ancienne. On a des vieilles dépêches de l'AFP qui viennent sur des petites bandes. Ça fait cric, cric, cric. Voilà, je reçois la vieille dépêche et la dépêche vient de tomber sur le téléscripteur. Bonne nouvelle pour Apple, le constructeur va échapper à la taxe de 15% sur les importations chinoises qui devait rentrer en vigueur le 15 décembre. Donald Trump a signé un accord commercial partiel, la fameuse Phase 1 avec la Chine et qui va empêcher l'application des tarifs sur les quelques 160 milliards de dollars de biens chinois importés sur le sol américain. J'ai bien dit 160 milliards de dollars de biens chinois qui sont importés sur le sol américain. Est-ce que c'est la fin du bras de fer? Non, c'est le résultat du bras de fer. Donc on pourrait dire, chapeau Donald, tes manœuvres de cow-boy et ton bras de fer commercial a porté ses fruits. Tu obtiens ce que tu voulais. Ça va être à décortiquer par les économistes. Certains sont déjà en train de dire ce qu'on a perdu en réputation, certains économistes américains sont déjà en train de dire, je lisais un article ce matin, le gain sur cette négociation à court terme avec la Chine, d'un bras de fer qui aurait fait plier la Chine, est un espèce de gain électoral court terme, une vision... Oula, j'ai une porte qui s'est ouverte tout seul derrière moi, j'ai une petite frayeur. Une certaine vision de la diplomatie et des négociations commerciales, mais le manque de confiance qu'on va avoir dans le futur à cause justement de cette manière de négocier, les dommages sont irréparables. On verra. Moi, après, j'ai mes chakras ouverts. Peut-être que Trump a la meilleure manière de négocier au monde et sa géopolitique à coup de tweets incendiaires et sans manœuvre diplomatique, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Ok, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, mais c'est peut-être ce qu'il faut faire. Ouais, Monsieur Invisible est dans la place, ouais. Les téléscripteurs 2020, c'est Twitter. Tu sais, nous, on est très old-tech. Hein. Vous le voyez pas, mais on inscrit des trucs à la craie sur notre tableau, là. C'est vrai, en plus. Donc, voilà, on va voir comment ça va se passer. Moi, comme je le dis depuis le début de cette histoire, bien évidemment que ça aura des résultats bénéfiques à très court terme, mais à moyen terme et à long terme, ça va être très mauvais, à mon avis. Et on le voit d'ailleurs, si on fait le parallèle avec l'article que j'ai fait avant, la Chine qui vient de décider que dans 3 ans, elle n'aura plus aucun matériel étranger. The art of the deal, tout à fait. Bon, ceux qui n'ont pas l'art de the deal, c'est Avast. Avast qui avoue qu'il fait 5% de son chiffre d'affaires sur la vente de vos données. Un bad buzz pour Avast. Au début décembre 2019, le fondateur d'Adblock Plus, Vladimir Palant, dénonçait sur son blog 4 extensions éditées par Avast, qui pour lui collectait un volume anormalement élevé de données sur l'activité en ligne des utilisateurs. Et du coup, suite à ces accusations, que ce soit le navigateur Mozilla et Opera ont bloqué ces 4 extensions. Et du coup, Avast, dont le nouveau dirigeant aurait Onrej VLCEK, Schleck, Schleck, putain, j'y arriverai pas. Bref, c'est le nouvel dirigeant tchèque de Avast a dit que ces données étaient effectivement collectées pour une finalité marchande. Avast a acquis 65% d'une plateforme marketing web qui s'appelle Jumpshot. Et ces données collectées permettent de mettre à disposition des clients de Jumpshot des analyses des comportements des consommateurs afin de placer de la publicité. Donc Avast a dit que cette activité permettait au groupe Avast de générer 5% de son chiffre d'affaires, soit environ 20 millions de dollars. C'est déjà bien de le dire, hein, c'est déjà bien de le dire, mais c'est vrai que pour une entreprise qui relève de la sécurité informatique, alors moi j'ai des vieux souvenirs d'Avast parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas, mais c'était le truc gratuit, donc je me doutais bien qu'il faisait du fric ailleurs. On n'avait dit pas les noms, c'est vrai. Moi, je pensais plus que ça existait, effectivement, Avast. Après, comme toute entreprise, ils doivent bien gagner de l'argent quelque part. Je sais pas si Avast est encore gratuit. Comme d'habitude, si c'est gratuit, les gars, faut pas être naïf. Bien sûr qu'ils font de l'argent avec vos données comportementales. Alors, elles sont anonymisées et tout, donc... Si t'es prêt à voilà, c'est pas ton nom qui est inscrit dessus, c'est juste tes données comportementales. C'est pas aussi grave qu'on pourrait le penser. Le problème, c'est que derrière, est-ce qu'on peut retrouver ton identité avec tes comportements? Ça, c'est un autre débat, mais... Donc, je sais pas, c'est encore gratuit, Avast, pour ceux qui l'utilisent? Avast, le super antivirus, encore meilleur quand il est payant. Dans les petites lignes, les données sont anonymisées. De toute façon, honnêtement, les données marketing, je vous le dis, vous le redis, votre identité n'a aucune valeur marketing. Que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, Tartampion, ce que tu veux, qui tu es vraiment n'a aucune importance au niveau marketing. Ce qui est important au niveau marketing, c'est qu'est-ce que vous faites sur votre ordinateur, monsieur ? Vous avez acheté ça, puis après vous avez acheté ça. Là, vous n'avez pas allumé votre ordinateur pendant 3 heures. Donc, par corrélation, on en déduit que vous étiez en voiture. Vous avez combien de personnes de votre famille qui utilisent l'ordinateur, les différentes recherches. Ça va être des données. Et derrière, on met un chiffre. Monsieur 3424 a ce type de comportement. On prend tous les comportements, on les mélange dans la boîte Big Data et ça permet d'extraire des données comportementales. Tant de pourcents de gens, après avoir acheté tel produit sur Amazon, se sont renseignés sur tel produit et ça plutôt entre 19h et 23h les vendredis soirs. Statistiquement. Ce qui va permettre derrière à une marque qui veut vendre par exemple un produit complémentaire à ce produit Amazon, de dire il vaut mieux que je leur fasse une petite bannière bien ciblée dans les dents un vendredi soir entre 19h et 23h sur mon produit. Et paf, voilà, c'est ça. Là, je viens de vous décortiquer de manière assez brillante et rapide comment fonctionne la collecte de données marketing et à quoi ça sert. Et la valeur, elle n'est pas dans les données elles-mêmes, elle est dans la possibilité derrière pour une marque, en utilisant ces données, de faire un ciblage extrêmement précis. Tu as un porte-monnaie percé, hein, tu n'arrêtes pas de semer des pièces dans la chatroom, fais attention quand même. Merci en tout cas. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment ça marchait les données. Donc est-ce qu'il faut en vouloir à Avast ? Oui, parce que quand bien même tu fais de l'argent avec ces données, c'est pas grave mec, mais il faut le dire, faut le dire. L'important, c'est de dire, d'être précis et d'informer. Et pas d'informer dans des petites lignes inscrites. Je te le dis pas. Hein, si ça passe. Les gens sont pas cons. En tout cas, de moins en moins. Internet gratuit, on sait que ça n'existe pas. Rien n'est gratuit. Machin, on est le produit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est bon, on a compris. Moi, ça me dérange pas de donner mes comportements pour une analyse marketing à partir du moment où j'en suis conscient. C'est exactement comme dans le début de mes vidéos, la pub, les vidéos sponsor, les placements produits ne me dérangent pas du tout. Et même, je suis très content que mes collègues et nous, on ait des opérations comme ça. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand on vous le dit pas qu'il y a un placement, quand on vous dit pas qu'elle est sponsorisée, quand on vous dit pas les flux financiers qui permettent effectivement de gagner sa vie. On ne doit pas dissimuler la publicité. Ça, c'est illégal. Et ça, c'est mon combat. C'est mon fils, ma bataille. Bref. Pas très RGPD, cette histoire. Bah, RGPD, là aussi, hein, ils partent de la même théorie. C'est qu'il faut qu'on soit conscient de ce qu'on fait avec nos données comportementales. Moi, si je suis averti, je me sens pas... J'allais dire un gros mot. Je m'engage avec toi. Allez, tous avec moi dans cette croisade. Croisade Jérôme, hashtag. Non, bah, on a déjà un hashtag, hein, c'est stop pub caché. Alors certains vont pas au bout de mon hashtag et disent « Mais il y a de la pub sur tes vidéos alors que tu dis hashtag stop pub ». Non, je dis stop pub caché. Mais la pub, attendez, je suis un publicitaire à l'origine, j'ai vécu de la pub, je vais pas être anti-pub, hein, je serais craché dans la soupe quand même. La pub pour moi c'est le commerce. Et la pub bien faite c'est très bien, c'est du bon commerce. J'aurais toujours cette théorie là. Allez, on continue. Je suis en train de partir dans les graviers et de me sortir du sujet. Parlons du Galaxy Fold, le smartphone qui se plie. Et non, c'est pas l'iPhone 6. Le Galaxy Fold, on se dit, mais Samsung, ils en ont vendu aucun. Moi, j'avoue que j'ai fait le test du produit. Je vous ai dit, c'est pas un smartphone. C'est très intéressant comme produit, mais j'en voudrais pas comme smartphone. Je préfère que tu me files la thune, Samsung. Ce qu'ils ont pas fait, hein, d'ailleurs. Eh bien, en fait, ça s'est bien vendu. Eh oui, j'ai été surpris aussi. Ils sont vendus à plus d'un million d'exemplaires quand même, les Galaxy Fold. Pour un smartphone à plus de 2000 euros, ça fait quand même pas mal. Ça fait beaucoup de sous. Et c'est un véritable bon proof of concept pour Samsung qui les encourage à persévérer dans la voie des smartphones pliables. La quête de Jérôme, exactement, mon Graal. Et on termine effectivement, avant de passer à la tartine, on termine avec une news. Si vous êtes encore sur Windows 7, eh bien, il est temps d'arrêter les petits. Hein. Windows 7, c'est vraiment fini. Et Microsoft va vous le dire haut et clair, à partir du 15 janvier, Microsoft ne mettra plus à jour Windows 7, sauf pour ceux qui vont payer une extension. Ce qui signifie qu'à partir de cette date, ceux qui continuent à utiliser cette version d'OS pourront être exposés à des risques de sécurité. Et donc, à partir du 15 janvier, une notification plein écran va apparaître sous les Windows 7 qui décrit le risque de continuer à utiliser Windows 7 Service Pack 1 après la fin de la prise en charge le 14 janvier 2020. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un osé le dire dans la chatroom ? On est entre frères, on est entre sœurs, on peut se comprendre, on peut vous soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui travaille encore sur un ordinateur au boulot qui est sur Windows 7 ? Je vous demande un moment de respect pour cette arrière-garde obligée de travailler. Oui, Nicolas, Windows 98, eh ouais. Oh putain, oui. Oh la vache. Oui, absolument. Il y en a des tonnes. Eh ouais, dans le monde professionnel... XP et 7. Ah ouais, non, mais ça ne me surprend pas en même temps. Donc, a priori, vos boîtes vont payer effectivement l'extension qui va payer l'extension pour la prise en charge du système d'exploitation. Non, mais on serait halluciné de voir le nombre de boîtes qui même pas sont en Windows 7, hein, effectivement, Windows 98, voire des versions plus anciennes, voire encore sur des OS à base de lignes de commande. Hein. Je viens de basculer à 10, ouais. En faisant ça, de toute façon, Microsoft essaye de pousser les entreprises à accélérer la migration vers Windows 10. Non, elles ne payeront pas, elles s'en foutent. Oui, c'est vrai. Finalement, les failles de sécurité... Au pire, ça nous fait un bad buzz, on parle de nous, hein. Hein, Ginette, ça évite de faire une campagne de pub. L'outil gratuit de Windows 10, il y a 2 ans, est toujours valable pour passer de 7 à 10. Ouais, tout à fait. Mais bon, pour certaines entreprises, c'est quand même des migrations très lourdes, hein, de changer comme ça de 7 à 10. Mais bon... Windows 7, c'est fini. C'est fini, c'est bel et bien fini. Et c'est la fin aussi du Kawa. On va passer à la tartine. Dans la tartine, je vais vous parler des fake news et du Gorafi. Je vais vous demander aussi un petit peu votre avis. Un article que j'ai trouvé très intéressant ce matin. J'espère aussi que ça sera votre cas. Mais avant de passer à la tartine, nous allons parler de notre super sponsor. Notre super sponsor qui est toujours derrière moi. Shadow et ses Shadow PC, hein, Shadow qui a une nouvelle offre à découvrir absolument, c'est à partir de 13€ par mois d'avoir un PC de gamer, en tout cas de puissance gamer, un PC complet sur le cloud, ça vaut le coup d'essayer, ça n'ira pas à tout le monde, mais pour essayer justement, on vous permet de gagner un mois de Shadow gratuit toutes les semaines, et le gagnant de cette semaine, roulement de tambour, le gagnant de cette semaine... Roulement de tambour numéro 2. Et donc, le gagnant de cette semaine, c'est Syl Gaviel qui veut gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour jouer à Divinity Original Sin avec des graphiques au max. Déjà, extrêmement bon choix de jeu, hein, Syl Gaviel. C'est un très 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 bon jeu, Divinity Original Sin. Nous, on y joue en coop avec Marion. On a repris la partie à zéro en mettant un crantage un peu plus dur pour pouvoir y jouer de temps en temps. Bon, on joue rarement, mais on adore jouer à ce jeu tous les deux. Et le Shadow PC est absolument idéal, effectivement, pour ce type de jeu, parce que même si t'as des petits problèmes de latence chez toi avec le Shadow, parce que t'as pas une connexion tip-top ou pas d'une qualité optimum, pour ce type de jeu, c'est absolument pas grave. Donc si, comme Sylgaviel, vous voulez gagner votre mois Shadow PC, il faut faire exactement comme lui. Il faut suivre le Twitter de Shadow _ France et ensuite composer un tweet où vous dites que vous voulez gagner un hashtag Shadow PC avec le hashtag le mug Nowtech pour jouer à ce que vous voulez pour utiliser tel ou tel logiciel. Voilà. Merci en tout cas à Shadow d'être sponsor et partenaire de notre live tous les matins. On les en remercie, Shadow Team. Bonjour, est-ce que le Shadow fonctionne avec une connexion satellite ? Faut essayer. Quelqu'un me demandait si Shadow fonctionne avec le Nvidia Shield. Oui. Oui, oui, tout à fait. Il y a une application Android. Donc, avec tout Android TV, tu peux faire accéder donc à ton PC à distance avec l'application Android. Je vais vous montrer ça bientôt. Je suis en train de travailler sur des trucs. Bon, si vous avez d'autres questions sur Shadow, gardez-les pour la fin de l'émission, parce que d'abord, on doit faire la tartine. La tartine ce matin, on va parler de fake news, on va parler du Gorafi, on va parler des problèmes que tout ça représente. Comment les sites, alors on va pas parler spécifiquement du Gorafi, mais des sites qui copient mal le Gorafi. On a peu de temps, donc je vais aller assez rapidement sur cette tartine, mais je vous résume un peu la situation. Il y a une citation de Macron qui a dit « Si on a 200 euros pour les cadeaux, il n'y a pas besoin d'avoir une augmentation. » Il a dit ça le 5 décembre dernier et plus de 343 000 personnes ont partagé directement ce jour-là sur leur page Facebook cet article avec la citation du président Macron. Si on a 200 euros pour les cadeaux, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'augmentation. Phrase scandaleuse, hein, phrase effectivement qui a déclenché les ires anti-Macron. Le problème, c'est que cette phrase est complètement fausse. Macron n'a jamais dit cette phrase et cet article vient d'un site qui s'appelle Franche Info. Personne n'y a vu que du feu, ça a été repris par beaucoup de médias. Peut-être que certains d'entre vous pensaient que cette phrase était vraie, parce qu'elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, et ça met le doigt sur le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Des sites parodiques utilisent les ficelles de la fake news, vont jusqu'à financer leur contenu pour qu'il se disperse, et tout le monde le reprend en cœur. Et c'est très très facile, hein, les ficelles du fake news. Vous faites dire à Macron quelque chose de scandaleux, vous faites dire à quelqu'un un truc anti-grève. Enfin voilà, il y a des grosses ficelles en ce moment effectivement aujourd'hui. Et le problème est justement, en interrogeant les gens du Gorafi, quelle est la différence entre une news parodique et une fake news. Ce que dit, comment il s'appelle, Vincent Glad. Comment il s'appelle, Guillaume Dandin. Non, c'est pas lui non plus, on va y arriver. Sébastien Libus, créateur du Gorafi, il dit, la différence entre une fake news et un article parodique, c'est que nous, nos titres, il va toujours y avoir un élément un peu absurde dans nos titres, parce que c'est ce que fait le Gorafi. La news est trop grosse pour qu'on y croit vraiment. Et ce que vont faire des sites comme Franche Info, mais il y en a d'autres, hein, il y a NordPress, il y a Secret News, BMF News, sont des sites soi-disant parodiques, mais qui, eux, vont souvent faire de la vraie fake news avec des titres trompeurs qui trompent les gens. Y a-t-il vraiment une différence ? Est-ce qu'on n'a pas vu des articles parodiques du Gorafi repris avec le plus grand sérieux par des gens qui pensaient que c'était vrai? Donc, on voit bien le problème, c'est que la limite est très très mince entre la fake news Et la satire, la déformation de l'actualité. Donc, aujourd'hui, où il faut qu'on mène un combat contre les fake news, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de faire disparaître la presse parodique et ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en pensez, justement, à Jadon? Est-ce que, du coup, il faut renforcer les lois anti-fake news en prenant le risque de faire disparaître le Gorafi? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quel est votre avis là-dessus? Beryl, tu vas te prendre, désolé, une censure. Les majuscules sont interdites dans la chatroom. Parce qu'on a l'impression que tu viens de nous gueuler dessus. Je n'ai absolument pas lu ce que tu as écrit. Donc, n'écrivez pas en majuscules, ça ne sert à rien. Vous allez vous prendre un blocage. J'ai demandé effectivement à notre merveilleuse Timothée, Cléa Molette, de bloquer toute personne qui se met à gueuler en majuscule dans la chatroom parce que c'est insupportable. Éduquer les gens, Gorafi cité par des députés, oui c'est arrivé, liberté de parole, la fake news est vraie à partir du moment où ça va dans ton sens, c'est la tristesse de notre époque, la vérité on s'en fout. Oui, là on en a déjà beaucoup parlé, hein. Le problème effectivement des fake news, c'est ça, c'est qu'on est dans une société où le buzz est plus important que la vérité, et la vérité n'arrive pas à rattraper la fausse info. Et les fausses infos s'installent comme des vérités. C'est, on va me taxer d'anti-Trump, mais je m'en fous parce que c'est vrai, je suis anti-Trump. Mais Trump est un génie dans ce sens-là. Il a très bien compris l'époque dans laquelle il vivait aujourd'hui et que la vérité n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est pas ce que les gens veulent. La vérité, ils s'en foutent. Et il manie ça avec un... Pour moi, c'est un génie, hein, de ce côté-là. Alors, un génie peut-être maléfique, ça c'est un autre problème, mais c'est un génie. Et la communication politique en est bouleversée jusqu'à ses fondements les plus profonds. Et il sera retenu dans l'histoire, en bien ou en mal, pour ça. Ça c'est clair. Je pense que la fin des fake news ne peut que passer par l'éducation. Bah, effectivement, nous, on est entre gens intelligents, hein, ici. Donc, on va se parler entre gens intelligents. Nous, on croise. Jamais, ça vous est jamais arrivé de relayer une info croustillante parce qu'elle était croustillante. Vous vérifiez toujours vos sources, vous croisez pour voir si c'est vraiment vrai. Si demain quelqu'un tweet Jérôme n'a pas des cheveux mais c'est des plumes qu'il a sur la tête, vous allez vérifier quand même que le mec dit pas des conneries, c'est pas une info assez croustillante, c'est pas assez croustillant ça. Ne mettez pas des plumes dans le cul. Alors voilà, vous verriez un tweet qui dirait j'ai croisé Jérôme avec un sac qui n'était pas un Peak Design dans la rue. Vous allez croiser vos sources. Vous allez vérifier que c'est vrai. Alors, ça vous semble quand même un petit peu bizarre. Vous n'allez pas tout de suite retweeter ça pour vous poêler un bon coup. Ah, Jérôme, sans son Peak Design. Merci, Macero, pour ton super chat. Donc, on est entre gens bien. Nous, on croise nos sources. Jamais on retweet un truc croustillant sans avoir regardé. Eh ben, moi, je vous le dis, mea culpa, mea culpa. J'ai retweeté des trucs sans vérifier. J'ai fait des news dans ce live qui, le lendemain, ont été débunkés. Ça m'est arrivé de ne pas bien croiser mes sources. Maintenant, ça me demande plus de travail le soir, mais j'essaye, avant de faire un article, d'en trouver au moins deux ou trois qui parlent du même sujet pour pouvoir croiser mon info. Après, nous, effectivement, on fait de la revue de presse. Donc, quelque part, le fait qu'il y ait une fake news qu'on relaie, c'est une information en soi. Mais bon, ça pourrait être un débat. Mais effectivement, ça me fait très très peur, ces histoires de fake news. On commence à en avoir quand même de plus en plus. Et c'est assez étonnant, quoi. Microsoft, futur concurrent. Voilà, on n'en est pas encore à la fin de l'émission, Rémi. Gardez vos questions pour le camp de fac. On va pas tarder à commencer. Donc voilà, moi en tout cas, je vous conseille d'aller lire cet article, de réfléchir là-dessus. Je trouve que c'est très intéressant. Où est la limite pour le Gorafi? Où est la limite pour les fake news? Comment on va gérer tout ça? Ça va pas être simple. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Il nous reste Allez, je vais faire une rallonge de 5 minutes. On va passer 10 minutes entre nous. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions. Il y en a qui ont déjà commencé. Hein. Vous êtes des questionneurs précoces. De me poser des questions sur tout ce que vous voulez. Moi, je réponds uniquement à celles que je veux. Non, surtout celles que j'arrive à lire parce que ça va très vite, surtout le vendredi. Donc, on passe à la dernière rubrique. Et c'est les camps de fac. Et les camps de fac, ce matin, il n'y a pas de questions Platinium. Donc, on peut attaquer tout de suite avec vos questions. Donc, le premier qui me pose une question. Pourquoi tu te lèves à 8h alors que tu es YouTuber? Non, je me lève pas à 8h. Je me lève à 6h pour préparer l'émission. Et je sais pas si ta phrase est premier degré, mais je la trouve absolument géniale. Pourquoi tu te lèves à 8h alors que tu es YouTuber? YouTuber, tu dois être glandeur, hein? Pourquoi tu te lèves à 6h du matin alors que t'es YouTuber? Fais ton boulot, glande. Je peux te dire, en tout cas, tous les YouTubers que je connais et que j'apprécie, j'ai jamais vu des bosseurs pareils, quoi. Et ils sont tarés, d'ailleurs. Il y en a plein qui vont faire des burn-out. Hein. Pourquoi la mise à jour Windows 10 fait bugger explorateur de fichiers? Je comprends pas ta question. Là, je fais du second degré. Pourquoi? Bah, c'est Windows. Donc, ça bug. Non, je sais pas. Je peux pas te répondre. Nowtech, avec la démocratisation du deepfake et des GPU puissants, pas chers, les fake news, rapidement... Putain, les questions qui sautent, ça m'énerve. Vont rapidement prendre une nouvelle tournure. Oui, oui, bah, de toute façon, aujourd'hui, on est en plein dedans. Hein, il faut croiser ses sources. Il faut croiser les flux. Les news, c'est pas comme Ghostbusters. Faut croiser les flux. Sur la tactique de négociation de Trump, je conseille l'excellente vidéo de Victor Ferry. D'accord, merci du conseil. Jérôme, quand est-ce que tu nous fabriques et que tu mets en vente des mugs Nowtech pour le petit déjeuner? Eh ben écoute, on va prendre quelques cours de poterie hein, pour que je fabrique des mugs. Non, je ne m'y suis pas mis au merchandising parce que j'ai pas eu le temps. Comme d'habitude, j'ai des idées disproportionnées, je peux pas faire simple. J'ai vraiment envie de faire du merchandising avec des artisans locaux, des trucs faits à la main, qui seront probablement très très chers, mais qui seront justifiés par une certaine approche de la fabrication. Et pour mettre ça en place, il me faut du temps. Si on arrive à dégager un petit peu d'argent sur notre résultat comptable de cette année, je pourrais peut-être investir, embaucher quelqu'un pour s'occuper de cette partie-là et nous faire vraiment une très belle gamme de merchandising avec des artisans locaux, quoi. C'est ce que j'aimerais vraiment réussir à faire. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire du spreadshirt ou des trucs industriels. Alors, je sais, on va me hurler dessus quand on sortira des t-shirts à 70€, mais ça sera des t-shirts faits par des sérigraphes locaux à la main, certifiés, numérotés. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et les mugs, pareil. Donc, un jour. Oui, au merch, ouais, mais j'aimerais bien, mais il me faut du temps et c'est ma denrée la plus rare aujourd'hui. Est-ce que tu penses que certains youtubeurs tech devraient sensibiliser un peu plus leur communauté sur la surconsommation, leur impact sur la planète? On commence à le faire, hein, Goku, de plus en plus. Moi, je sais en tout cas que je le fais. On en discutait effectivement avec... En fait, ce qui peut vous paraître paradoxal, c'est que nous, on pensait déjà le faire. Mais comme on disait avec Steven, on l'a peut-être pas assez... Vous, vous avez une vision que nous, on vous pousse à acheter des trucs. Nous, on a une vision qu'on vous informe pour que vous achetiez mieux. Et donc, pas forcément plus. Donc, c'est cet écart entre la vision que vous avez de notre travail et la vision qu'on a de notre travail qu'il faut, sur lequel il faut qu'on communique. Un très grand merci à Guillaume pour la qualité du mug d'hier sur l'écologie, langage, etc. Ça lui sera transmis, François. T-shirt La Grande du Barbu, c'est collector, effectivement. Ça, d'ailleurs, il faut que je le revoie, Olivier. Pourront-on accéder à Shadow avant avril? Je ne sais pas où ça en est, là, les précommandes. Normalement, c'est février. Ceux qui ont précommandé le boost avec le code Nowtech, et je crois que les activations sont ces jours-ci. Après, peut-être qu'ils ont rempli toutes leurs précommandes pour février, donc maintenant, ça a peut-être basculé sur avril, hein, j'en sais rien. Un test prévu sur le Pixel 4 ? Non, pas de test prévu pour l'instant sur le Pixel 4. Merci Serge pour ton super chat. Tu compenses ton Tipeee du mois dernier. Oui, j'ai suivi à distance, Serge, tes déboires avec Tipeee. Est-ce que le Sling 5 litres rentre dans le Everyday 30 litres version 2 ? Alors, je vais prendre... Non, je ne l'ai pas encore, le Sling 5... alors, le nou... tu parles du nouveau, le Sling 3 litres, ou tu parles du Sling 6 litres. Le 6 litres ou le 5 litres ancien ne rentre pas dans le 30 litres. Par contre, le nouveau 3 litres, à mon avis, je veux voir même s'il rentre dans le 20 litres. On se pose de ces questions en tant que fan Peak Design. Faudrait rappeler pour les nouveaux produits que l'ancien est toujours bien. Ben, c'est ce que je fais. Moi, chaque année, quand même, je fais un guide d'achat des iPhones anciens. Mais je sais que je vais le faire de plus en plus dans mes vidéos, dire est-ce que vous avez vraiment besoin de ces nouvelles fonctionnalités, c'est la question à vous poser. Donc tel ou tel, je l'ai fait avec les derniers iPhones, j'ai dit si vous n'êtes pas vidéaste, c'est pas hyper intéressant. Si vous avez l'iPhone 10, 7, 8, c'est pas hyper intéressant de passer à l'iPhone 11, voilà, je l'ai dit. Mais le problème, c'est qu'en fait ça arrange les gens de pas trop m'écouter là-dessus. Et derrière, quand ils me croisent, ils me disent « Hey, j'ai acheté ça, c'est à cause de toi. Hein. » Genre, je dois porter la responsabilité de ton achat, mec. Non, 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 non. Tu m'écoutes, t'en écoutes d'autres, tu prends ta propre décision, t'es un grand. Moi, j'oblige personne à acheter quoi que ce soit. Hein. Et je ne force pas. En plus, mon business model fait que je n'ai pas besoin de pousser à la consommation. Une vidéo bilan de la chaîne 2019, évolution pour 2020. Ouais, en même temps, je vous tiens pas mal informé dans les lives. Mais pourquoi pas? C'est pas prévu, en tout cas, pour l'instant. Peak Design a redéfini la physique des volumes. 5 litres ne rentrent plus dans 20 litres. La vache, ils sont forts. Olek, je te trouve très... Tu dis n'importe quoi. Tu connais pas. Le seul responsable de mon achat, c'est ma fièvre acheteuse. Tout à fait. Tout est entièrement de ta faute, Jérôme, tout. Oui, bah, si ça vous arrange de dire ça à votre banquier, ok, je veux bien. Mais à ce moment-là, je demande une commission sur chacun de vos achats. Je veux la preuve que vous avez bien utilisé mes liens d'affiliation. Hein, si vous voulez que je devienne vénal et un vilain capitaliste, je peux très facilement le devenir. Alors, me provoquez pas. Hein. Les contributeurs ont des infos. Bah ouais, bah autant devenir contributeur si vous voulez des infos sur la chaîne. Et toc, voilà, un vilain capitaliste. J'hésite entre le Sony A7, entre le Sony A7 III et les Fuji X-T3. Alors, c'est très simple. Si tu fais plus de photos que de vidéos, X-T3. Si tu as un équilibre entre les deux, Sony. Voilà, j'ai donné ta réponse. Où aller les tester pour se faire une opinion selon toi, SOS Ciné? Tu peux les louer chez SOS Ciné. Effectivement, ça peut être une bonne méthode. Tu les prends pour aller faire un week-end et tu te fais ton test. Jérôme, on t'aime, mais c'est ça le principal. Non, c'est l'argent le principal. C'est ça le plus important. Secret de l'acier. J'aime beaucoup ton pseudo, le secret de l'acier. Il y a quelques chaînes YouTube qui pourraient prendre ça comme slogan. Le secret de l'acier. J'ai pas donné de nom. J'ai pas donné de nom, Chabit. Ton avis sur le Sigma FP, bête étrange, mais que j'ai pas eu en main. Est-ce que j'ai testé l'EOS R? Non, je l'ai eu en main, mais je l'ai pas vraiment testé. Ça viendra peut-être. Peak Design, c'est la vie, mais Jérôme les aide pas mal sur les ventes FR. En même temps, même mes vidéos, Peak Design n'est plus passionné. Et c'est vrai que Peak Design, je perds toute objectivité. Mais je vous avertis des défauts. Je dis que ça ne conviendra pas à tout le monde. C'est pas des sacs de randonnée. C'est des sacs qui sont chers, donc il faut vraiment en avoir l'usage. Je donne, mais ça, personne m'écoute. Vous, après, vous êtes là, je l'ai acheté, c'est à cause de toi, j'ai pris votre main et j'ai cliqué sur le bouton acheter. Jérôme, il est 9h05, il faut couper le live. Si je veux, hein, si j'ai pas envie de couper le live, je coupe pas le live. Allez, je réponds à une dernière question, puis on arrête là. Le one man show commence, c'est la fatigue qui monte en fait, quand je commence à vriller comme ça. Quelle alternative au Peak Design? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Le reste ne devrait même pas s'appeler des sacs. Non, honnêtement, je ne connais pas très bien le marché des sacs. Pour être honnête, à part Peak Design, je ne connais pas grand-chose. Donc, je ne te donnerai pas de mauvais conseils. Il y a de très bons autres sacs. Si, alors, Ah, comment ils s'appellent? Crumpler ou... C'est ce que j'avais avant, ils étaient pas mal. L'eau est pro, je trouve que la finition, elle laisse à désirer, hein, souvent. Hein. Je veux pas être méchant, mais j'ai pas eu des bonnes expériences avec les Low et Pro. Mais, est-ce que je connais Mobile Mediacom? Non. Allez, il faut que je focus All Good Things Come to an End, comme on dit hein, en anglais. Je suis triste de vous quitter, mais on a beaucoup de travail. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, une nouvelle vidéo sur la chaîne principale aujourd'hui. On va vous parler de nos nouvelles caméras. Si ça arrive pas aujourd'hui, ça arrivera lundi. Hugo étant malade et Karina étant en grève. Non, Karina, elle bosse chez elle sur un autre sujet, parce que là, c'est impossible de venir. J'ai un peu de retard sur la prod. Enfin, un peu de retard. On a déjà sorti une vidéo cette semaine. Donc, si j'en sors une aujourd'hui, j'aurais fait deux vidéos dans la semaine. Alors, hein, arrêtez de dire que je suis lent, hein, parce que ça m'énerve. Je vous fais des gros gros bisous, passez un excellent week-end, bon courage à tout le monde aujourd'hui, il en faut en ce moment, c'est pas facile mais on se serre les coudes. Et je vous retrouve, je serai tout seul lundi parce que pareil pour raison de grève, Marion ne peut plus faire les mugs avec moi le lundi, elle sera de retour mercredi normalement. On vous donnera le planning hein, de Noël la semaine prochaine, pour l'instant on n'y a pas encore bossé. Je vous fais des bisous, allez il faut vraiment que j'arrête, ciao tout le monde.